Alors, bonjour à tous. Donc, Gilles de Beaulieu, chargé de mission paysage au ministère de la Transition écologique et solidaire. Je m'occupe évidemment des plans de paysage en particulier. Alors, dans cette séquence, je vais essayer de faire un petit peu. Alors, un exercice qui est un petit peu. Qui risque d'être un peu désordonné, un peu une synthèse à la fois de ce qui s'est dit ce matin et en même temps de le mettre en perspective par rapport à la question des plans de paysage dont on vient. De voir un exemple. Donc, et savoir si ces plans de paysage finalement sont une réponse aux interrogations qu'on peut avoir. Et vous l'aurez compris en entendant les interventions de ce matin, je dirais que la ligne de crête en la matière est quand même assez étroite, ou plutôt je devrais dire que le talweg est assez creux et qu'on risque très rapidement de faire des sorties de route si on n'est pas attentif à la manière dont on déroule tous ces projets et toutes ces politiques publiques. Alors, dans la première, alors je vais reprendre un peu les interventions dans l'ordre. Ça, c'est peut-être un petit peu fastidieux, mais ça permet de garder une structure dans le déroulement de mon intervention et de ma synthèse. Dans un premier temps, donc, Bruno Ricard nous a dit quelque chose qui a retenu mon attention, c'est que quand il s'est engagé dans la question de l'eau, ils ne l'ont pas traité sous l'angle des risques, mais sous l'angle de l'hydromorphologie. Et ça, je trouve que c'est extrêmement important de bien poser la question comme ça. Et je mettrai ce propos en écho avec ce que vient de nous dire Jeanne Dumont dans la question du plan de paysage, où ils ont traité, peut-être de façon assez modeste, dit-elle, mais moi je trouve de façon très opérationnelle et très pertinente, de la question des eaux pluviales, c'est-à-dire une contrainte, et qu'ils ont su transformer cette contrainte à travers leur projet de rue fleurie en une ressource. Et bien, c'est pareil, donc c'est un peu l'équivalent de ce qu'a dit Bruno Ricard. On passe effectivement de quelque chose qui peut être une ressource à quelque chose qui pourrait être une contrainte en termes de risque. Et je pense qu'en fait, on a résumé à travers ça toute la philosophie des plans de paysage qui consiste à regarder les choses comme des ressources et non pas comme des contraintes, c'est-à-dire inverser grandement la tendance par rapport à toutes les traditions de politique d'aménagement qu'on peut avoir et pour lesquelles l'eau est évidemment quelque chose de particulièrement central. Donc c'est évidemment tout à fait important. Après, Jeanne Dumont nous a dit que c'était une action qui était modeste. Moi, je dirais, il n'y a pas d'action modeste. Pourquoi? Dans les plans de paysage, on a vu que les premières générations de plans de paysage avaient une approche qui était très généraliste, avec des diagnostics 360 degrés, et des plans d'action extrêmement larges qui ont beaucoup de mal à atterrir. Et justement, cette question de prendre une thématique particulière, en l'occurrence c'était le cas de l'eau, d'arriver à la traiter de manière complète, et l'intervention de Bruno Ricard sur cette question-là était aussi intéressante parce que j'ai bien retenu que dans l'enseignement, on avait la question de l'eau en ville, on avait la question des cours d'eau, c'est-à-dire qu'on a une notion à travers ça de continuité territoriale sur l'ensemble de cette question. Et que c'est en entrant par un fil conducteur qui peut paraître ténu, on arrive justement à avoir tout un travail de pédagogie auprès des élus, auprès de l'ensemble des acteurs du territoire, et de leur faire comprendre quelle est une logique territoriale complète. Et c'est peut-être à travers cet exercice pédagogique qu'on arrive finalement à bon port, plus que par des entrées ultra généralistes. Et puis, ce qui m'intéresse aussi, c'est que dans une école du paysage, on est à la fois comme Blois ici, on est dans les enseignements, des enseignements qui soient très techniques. Hein. On a vu des calculs de méandres, des calculs de flux, c'est-à-dire une culture qui finalement relève de l'ingénierie et à la fois le côté de la conception avec l'aspect plus sensible. Et je crois que le paysage, c'est les deux aspects. Malheureusement, souvent, on l'oublie un petit peu et la question de l'ingénierie est grandement évacuée. Et c'est fort dommage parce que c'est un des pôles de compétences qui est tout à fait important. Et le paysage, c'est quand même de l'ingénierie d'abord, quoi qu'on dise. Donc c'est très important aussi de bien rappeler ça, parce que ça permet d'éviter les sorties de route dans la question de la compréhension de la notion du paysage. Donc de ce point de vue-là, évidemment, toutes les explications données sur l'eau étaient tout à fait intéressantes. Ensuite, nous avons eu une intervention de Madame Carco. qui nous a utilisé le terme d'hydrodiversité. Alors, terme un peu barbare, mais éminemment heureux en effet, et en nous indiquant qu'il y avait un lien qui était extrêmement fort entre l'aménagement des cours d'eau et l'histoire humaine, tout simplement, et que les deux sont intimement liés. Ce qui est évidemment un facteur éminemment important et qu'on retrouve dans les plans de paysage, c'est-à-dire qu'on veut des politiques qui soient territorialisées et étroitement territorialisées. Et je dirais, plus elles le sont, plus les résultats sont diversifiés, plus ils sont intéressants et plus ils collent à une réalité territoriale. Donc c'est évidemment un élément qui est tout à fait important parce qu'il permet d'avoir une approche qui est basée sur des typologies qui sont les plus riches possibles, d'arriver même, je dirais, non plus à des typologies, mais à une analyse de cas et à du cas par cas. Et c'est bien ce qu'on poursuit, c'est du cas par cas, et c'est pas du tout, au contraire, la banalisation des territoires qui pourrait résulter des versions déshumanisées qui nous ont été présentées, dans lesquelles on n'a qu'une moitié de l'histoire, hein, avec tout le risque d'un oubli. Et un des éléments importants, c'est que quand on voit les documents qui ont été produits, justement, qui montrent une vision déshumanisée du paysage, on voit, et ça rejoint aussi l'équilibre entre la sensibilité et l'ingénierie, on voit qu'on évacue toujours une moitié de l'histoire. C'est toute la culture d'aménagement qui a présidé en France depuis les années 50, on dira, qui ont effectivement été une culture d'ingénieurs purs, avec des modèles qui ont été dupliqués et sauvagement plaqués, notamment évidemment question en matière d'aménagement des cours d'eau, et que du coup ça a produit une banalisation extrême et aussi une perte de mémoire. Et dans les plans de paysage, il y a la question aussi de comment on intègre les citoyens à un récit, à une histoire et à une reconquête finalement d'un territoire. Et la question de l'analyse diachronique, elle est extrêmement importante parce que c'est elle qui va permettre de se réancrer, se réapproprier une histoire qui a été en partie effacée, qui est souvent perdue. On a globalement plus affaire à des territoires dans lesquels on a eu des populations qui ont beaucoup bougé et qui aujourd'hui arrivent en tant que consommateurs, mais pas forcément avec effectivement une conscience de l'endroit où ils habitent ou de l'endroit où ils travaillent. Et cette analyse diachronique, c'est redécouvrir son histoire, c'est redécouvrir le fonctionnement d'un territoire appliqué à l'eau, c'est redécouvrir la complexité évidemment des cours d'eau qui ont été banalisés et simplifiés. Donc c'est vraiment quelque chose qui est fondamental que cette notion de la connaissance parce qu'elle permet évidemment de passer sur un versant plus riche que les politiques d'aménagement globalisantes qui ont pu fortement marquer les aménagements et les politiques publiques. Alors du coup, on pourrait se dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, mais ça n'est pas quand même exactement la question. Il y a encore effectivement, après avoir vu un peu quelques éléments qui nous permettaient de re-territorialiser les politiques, il y a quand même un certain nombre de risques qui s'expriment. Et ces risques, pour ma part, je les ai vus beaucoup dans l'intervention tout à fait intéressante de Caroline de Calvez, qui nous a parlé des projets. Alors on se dit, on se projette, tout va bien, c'est formidable, on va avoir effectivement une vision d'avenir, on repart sur le bon pied, je dirais, on évoque la question des nouveaux usages, on se dit c'est un super moteur pour la créativité, pour la création, tout va bien. Alors il y a peut-être quand même, ces nouveaux usages vont générer des nouveaux paysages. Et dans les trois projets qui nous ont été présentés, ce qui était intéressant, c'est qu'ils ont tous les trois soulevé quand même des questions qui était tout à fait pertinente. Les questions, c'était la question du paysage décor, c'était la question de la mixité sociale, c'était la question, finalement, de la biodiversité aussi. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit que, finalement, peut-être que si on n'y prête pas attention, on est quelque part dans une culture de l'aménagement qui se poursuit, mais qui s'est simplement verdi. Donc il faut quand même faire attention à ça, parce que effectivement le risque, c'est de continuer à dupliquer des politiques en évacuant toujours le territoire, et que c'est pas parce qu'elles sont plus vertes qu'elles sont plus vertueuses. Donc il faut vraiment faire attention à ça, et il faut être vraiment bien conscient que la territorialisation des politiques, on ne peut pas l'évacuer, sauf à reproduire des modèles qu'on va plaquer indéfiniment. Alors, dans cette mécanique-là, il y a la question des usages sur lequel je voudrais m'arrêter un petit peu. On a parlé des nouveaux usages qui font des nouveaux paysages. Moi, il y a quand même une question que je me pose, que je vois régulièrement dans les plans de paysage, c'est est-ce qu'il s'agit véritablement de nouveaux usages ou est-ce qu'il s'agit d'offres, d'une offre commerciale de consommation de services ? Ça n'est pas exactement la même chose. Les nouveaux usages, surtout s'ils sont connectés avec des façons de vivre, avec des identités diversifiées, c'est intéressant et ça peut produire une diversité de paysages. L'offre, c'est déjà beaucoup plus problématique parce que ces offres en fait, de services, on s'aperçoit qu'elles sont à peu près les mêmes partout, qu'elles sont très banalisées. Ça va être les aires de jeu, ça va être les pistes cyclables, ça va être tout ça. C'est très bien, mais ça ne produit pas de diversité, ça ne produit pas d'ancrage territorial. Et donc là aussi, sur des notions comme ça, on voit bien qu'on peut achoper dans les détails et qu'on peut très rapidement, avec les meilleures intentions du monde, retomber en quelque sorte dans tous les travers qu'on a pu évoquer. Et d'autre part, je mettrai ça aussi en lien avec la question de conception et la notion de paysagiste concepteur et ce qu'on apprend dans les écoles. Parce que effectivement, aujourd'hui, je pense qu'il est nécessaire de réinterroger la manière de fabriquer les projets, de réinterroger la notion même de conception en matière de paysage dans les pratiques professionnelles, d'arriver à mixer davantage les compétences, et on a vu que Blois le faisait, donc c'est tout à fait possible, de mélanger les deux socles essentiels, la compétence technique, la sensibilité, et aussi d'avoir une pratique professionnelle qui est plus en lien avec les tissus locaux pour faire des projets qui soient plus ancrés et qui soient moins banals ou qui soient moins plaqués sur le territoire, parce qu'on voit quand même beaucoup de projets, on ne va pas se le cacher, qui sont relativement dupliqués, qui sont relativement banals. On voit beaucoup de tics, entre guillemets. On pourrait citer par exemple les nous qui ont fait fureur dans tous les projets il y a quelques années. Il n'y avait plus un projet sans avoir des nous, qui étaient parfois d'ailleurs complètement déconnectés des réseaux hydrographiques. Alors ça donnait évidemment des résultats qui étaient tout à fait surprenants sur le mode fonctionnel. Et point suivant, c'était la question de la Garonne. Alors de nouveau avec toutes les questions des nouveaux usages qui étaient évoqués. Alors est-ce que les nouveaux usages doivent effacer les anciens ? C'est pas sûr. Est-ce que dans la réappropriation, là aussi, il n'y a pas une redécouverte des modes de vie qui existaient aussi dans le passé, qui peuvent être des éléments de richesse et d'identité. Et puis, surtout, il y avait la question de la place de la perception. Alors, la perception, c'est évidemment un peu un élément très important. On le met en valeur dans les plans de paysage. Mais il faut voir que, justement, cette perception, elle est intéressante quand elle devient plus riche. Et il ne s'agit pas d'une perception pauvre qu'on va dupliquer, il s'agit d'augmenter la perception et la conscience d'habiter dans un territoire. Et ça suppose toute une politique de pédagogie et de redécouverte qui est extrêmement importante. Alors un autre point qui n'a pas forcément beaucoup de rapport qui a attiré mon attention dans cette intervention, c'est évidemment le cadre de l'action publique. On a parlé des SRADET, alors appliqué évidemment à la Garonne qui est à très grande échelle. On a parlé de la complexité des structures administratives et il est vrai que ces documents, en fait, sont des documents qui ont une tendance globalisante. Donc il y a quand même une tension qui est très forte entre la territorialisation des politiques, les outils publics, le fractionnement du fonctionnement administratif, qui est de toute façon très sectoriel par nature, et également quand il s'agit de mettre en œuvre la question du fractionnement et de la difficulté à mobiliser les financements. Donc on voit bien que là aussi, c'est une tendance centrifuge qui est possible, qui est extrêmement forte et qu'il faut arriver à contrebalancer. Donc c'est pour ça que je trouve encore une fois une approche qui soit une approche vraiment concrète, très opérationnelle et qui permette un ancrage territorial très fort, c'est peut-être, dans l'expérience qu'on voit des plans de paysage, celle qui va permettre d'éviter le plus d'écueils possible. Je ne dis pas qu'on arrivera à bon port, mais en tout cas, on a plus de chances d'y arriver. Et ce que je constate avec plaisir quand même, c'est que dans les plans de paysage nouvelle génération, où on a aussi simplifié les appels à projets, où on a demandé simplement à chaque territoire de nous poser une question, un projet, un problème auquel on s'attaque, On a une diversité de réponses maintenant qui est beaucoup plus forte qu'elle n'était dans le passé. Donc ça, c'est un signal encourageant. Ça veut dire que peut-être aussi, nous, État, on apprend à mieux poser les questions. Parce que c'est pareil, poser une question, il y a une différence entre une question ouverte et une question fermée. Donc il faut qu'on apprenne effectivement à poser les questions de manière ouverte pour avoir une pluralité de réponses. Et enfin, je terminerai à tout seigneur, tout honneur par l'intervention de Maglone de Jampon, qui nous a fait part, ça m'a beaucoup intéressé, d'un souvenir personnel. Ça pourrait paraître anecdotique. En fait, je trouve que ça ne l'est pas du tout. Parce que ce souvenir personnel, il nous dit quoi ? Il nous dit que l'objectif d'un plan de paysage, c'est véritablement d'habiter un territoire. Ce n'est pas d'y vivre, ce n'est pas de le consommer, ce n'est pas d'y travailler, c'est d'y habiter. Ça suppose tout, mais ça suppose surtout un lien personnel, une compréhension. Et ça suppose que dans son comportement de tous les jours, dans le comportement collectif, on est aussi contributeur de ce territoire. Et on n'est pas juste là, posé dessus, un petit peu de manière artificielle. Donc c'est vraiment extrêmement important. Et le sentiment d'appropriation dans les projets, il est fondamental. S'il n'y a pas cette appropriation, je pense qu'on arrive, on loupe un petit peu la teneur même de la question du plan de paysage et de la question aussi du projet de territoire. Et enfin, dernier point, je dirais que ces plans de paysage, évidemment, ils sont l'expression de la politique européenne. Donc c'est quand même aussi important de le souligner, c'est-à-dire qu'on voit qu'on n'est pas un maillon isolé, mais on voit aussi qu'il est possible, même avec des politiques qui pourraient paraître très stratosphériques, parce que là on est au niveau effectivement de la Convention européenne, il est possible d'arriver aussi à avoir, à partir de principes généraux, une traduction qui est une traduction territoriale, qui est au plus près des réalités géographiques, économiques et sociales des territoires. Et je dirais enfin pour conclure qu'un plan de paysage, c'est un ensemble, c'est une synthèse, c'est une vision globale, c'est ce qui va créer les liens, c'est ce qui va permettre de comprendre que les choses et les éléments du paysage sont une ressource, que ce n'est pas un risque, que ce n'est pas une contrainte, mais que c'est un élément qui nous permet d'aller plus loin, de nous projeter davantage. Voilà. Merci en tout cas à l'École de Blois aussi pour cette journée.
Merci. Je propose qu'on continue les débats.